20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Probablement au cœur de la forêt des Carnutes, on l'a vu côtoyer les druides de la Celtique, ces philosophes pythagoriciens en terre barbare. Tout en sillonnant la Gaule, il a croisé les redoutables Bellovaques, comme bien d'autres Gaulois, fiers ennemis de Rome, et fait halte à Alésia durant quelques jours qui ont fait l'histoire. On le sait, il a fréquenté Posidonios, et cela même si aucun récit direct du grand voyageur ne nous est parvenu. César, Celtil, Divisiac, Dumnorix, Suétone, dans ce point de vue image d'outre-tombe, que manquait-il au palmarès de Jean-Louis Bruno, si ce n'est Vercingétorix ? Jean-Louis Bruno, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de recherche au CNRS, archéologue proto-historien, vous vous penchez sur l'ultime représentant de la Gaule indépendante et lui consacrez votre dernier ouvrage, Vercingétorix, qui vient tout juste de paraître aux éditions Gallimard. Jean-Louis Bruno, Vercingétorix, voici un nom qui claque comme son courage, sa destinée.
Oui, tout à fait, puisque Vercingétorix, c'est un nom un peu curieux pour nos oreilles, mais qui veut dire effectivement le roi des grands guerriers ou le très grand roi des guerriers. Et donc il y a effectivement deux notions importantes ici, c'est la notion de guerrier, ce qu'il a été, et cette notion de roi qui marque effectivement un petit peu sa destinée, on aura l'occasion d'en reparler.
Entre Amédée Thierry, Henri Martin et Ernest Lavis, Vercingétorix a été enfermé dans une histoire qui n'est pas la sienne. D'ailleurs, peut-on écrire une histoire de ce personnage ?
Alors, je vais répondre à la première question. Effectivement, ce sont ces trois historiens, finalement relativement récents, puisqu'ils appartiennent au XIXe siècle, qui sortent un petit peu Vercingétorix de l'oubli, enfin surtout Amédée Thierry en 1828, il le sort de l'oubli, il en fait un héros. La figure d'ailleurs très intéressante, très, très romantique, on est en plein romantisme, alors que ses deux successeurs, Henri Martin et Ernest Lavis, eux font vraiment de Vercingétorix le premier héros national. Et effectivement, là, on est tout à fait à côté de la réalité de ce personnage, à côté de la réalité de la Gaule. Là aussi, on aura l'occasion de s'exprimer sur cette chose.
Montaigne en parle aussi.
Alors, Montaigne en parle aussi, mais Montaigne n'a aucun intérêt pour Vercingétorix. Lui, il admire la culture gréco-romaine, il admire César. Et à cette époque-là, enfin, tout le Moyen-Âge et à la Renaissance, on est habitué à admirer César et son écrit, qui est considéré comme un manuel d'art militaire.
De nouveau à la lumière des sources historiques, César, peut-être aussi Don Cassius, mais surtout de l'archéologie, on peut réécrire cette histoire ?
Oui, on peut l'écrire, puisqu'on a des sources d'informations qui sont quand même conséquentes. Enfin, Vercingétorix est le seul personnage de l'histoire de la Gaule qui se prête à ce travail très particulier. On a effectivement un texte assez important de César, mais aussi d'autres historiens. Effectivement, Dion Cassius, l'historien grec, apporte une part considérable à la vision de César. Et puis, il y a aussi des gens comme Cicéron, qui sont des contemporains de Vercingétorix, qui donnent aussi leur point de vue. Et puis, surtout, maintenant, avec les résultats de l'archéologie de ces 40 dernières années, on a affaire à un contexte économique, social, que les gens comme Henri Martin ou Amédée Thierry, évidemment, ne pouvaient pas posséder.
On ne fait peut-être pas une archéologie de Vercingétorix, mais en tout cas, on a travaillé la chronologie gauloise tellement finement que désormais, on a des réels événements.
Oui, bien sûr, tout à fait. Et tout l'intérêt d'un ouvrage comme celui-là, me semble-t-il, c'est justement, à travers le personnage de Vercingétorix, de donner chair à ces Gaulois que, effectivement, les archéologues voient un petit peu de très loin à travers les objets qu'ils ont laissés, les traces, les fossés, les trous de poteaux, des choses comme ça, qui en font des êtres un peu immatériels. Or là, on a une figure qui est vivante, et donc c'est ce que j'ai essayé de faire, essayer de rendre cette figure vivante.
Vercingétorix est-il un Gaulois ? Rien n'est moins sûr, du moins d'après César et la guerre des Gaules ?
Bah oui, pour César, il reflète effectivement une réalité qui était celle des Gaulois à cette époque-là. C'est-à-dire que les Gaulois sont avant tout les membres de leur cité. Donc ce mot cité désigne l'entité ethnique et territoriale, c'est-à-dire ce qu'on appelle les peuples. Et donc Vercingétorix était un Arverne. Et il était avant tout un Arverne avant d'être gaulois. Donc ça, c'est une chose tout à fait importante. Et donc, les autres peuples réfléchissaient de la même manière. C'est-à-dire qu'ils se prétendaient Carnutes, ils se prétendaient Bellovaques, par exemple. Et ce n'est que dans des circonstances très particulières qu'ils se considéraient comme gaulois et qu'ils fonctionnaient comme un ensemble de gaulois. Et donc, effectivement, César, qui était un très fin politique, et aussi certainement un très fin psychologue, a très bien compris comment il pourrait tirer parti de cette sorte de double nationalisme, si on peut dire, c'est-à-dire que la patrie de Vercingétorix, c'est la terre arverne, et non pas la Gaule.
Les Arvernes, c'est une des deux grandes puissances gauloises.
Voilà, donc depuis toujours, enfin depuis que la Gaule existe. La Gaule existe à partir de la fondation de Rome, c'est-à-dire vers moins 600. C'est-à-dire que ce sont les Grecs, quand ils posent leur regard sur la Gaule, enfin sur les indigènes des côtes languedociennes, qui donnent vie en quelque sorte à ces gens qui n'ont aucune identité. Et surtout, le commerce massaliote fait vivre cette Gaule et le fait se développer. Et très, très vite apparaissent deux entités très, très importantes, donc les Arvernes, qui sont au cœur du Massif central, donc dans la région de Clermont, et qui dominent tout le Massif central et toute la côte languedocienne. Et un petit peu en retrait, mais très bien placés néanmoins, les Éduins, qui sont dans le Morvan et qui, eux, sont établis sur les bords de la Saône, qui contrôlent le Rhône et qui contrôlent aussi l'accès au Rhin, etc. Et donc, ces deux peuples vont, pendant des siècles, se concurrencer et quelquefois s'opposer militairement.
L'un est plus à la guerre, ce que l'autre est au commerce.
Oui, c'est-à-dire que les Arvernes ont une position d'abord géographique très intéressante, c'est-à-dire qu'ils sont sur un belvédère, ils sont un petit peu en retrait, ils contrôlent un petit peu tout, mais ce ne sont pas eux qui font directement le commerce. Et les Éduins, au contraire, eux sont vraiment sur les axes commerciaux, et puis surtout leur proximité avec Rome, à partir surtout de la Seconde Guerre punique, va faire qu'ils vont être très liés à Rome, à tel point que le Sénat romain les déclarera frères consanguins des Romains, ce qui est le plus grand honneur que des Romains puissent accorder à notre peuple.
Les Arvernes ne le seront jamais.
Alors, enfin, les Arvernes ne le seront pas, mais ils auront aussi des liens particuliers également avec Rome, mais pas aussi serrés et pas surtout dans le même esprit que les Éduins.
Nous le savons, il faut lire César entre les lignes. C'est donc dans votre livre que j'ai découvert que la Gaule possédait un conseil de toute la Gaule. Oui, et cela peut-être même bien avant l'arrivée de César.
Bien sûr, parce que César en parle. Il en parle quand lui-même se sert de ce conseil de la Gaule, parce qu'il s'aperçoit très vite. Il en parle au bout de deux années de campagne, mais probablement il s'en est servi lui-même pour administrer cette Gaule qu'il veut conquérir et qu'il veut maintenir sous sa coupe. C'est pas avec ses 50 ou 60 000 légionnaires qu'il peut le faire. Et donc il se rend compte qu'il existe une structure politique extrêmement importante qu'il appelle Concilium Totius Galliae, donc le conseil de toute la Gaule, qui est une instance confédérale qui se situe au cœur de la Gaule, au centre géométrique de la Gaule, chez les Carnutes, là où justement les druides se réunissent régulièrement chaque année. Et à l'époque de César, il existe ce conseil qui permet au peuple gaulois de se choisir un patron. Donc parce que les Gaulois, un peu comme les Romains, sont très attachés au système de clientèle. Donc on est toujours patron ou client de quelqu'un. Et donc chaque année, ils se réunissent et élisent un peuple patron qui a une sorte d'autorité morale sur les autres. Et c'est pas quelque chose qui est à vie, hein, c'est quelque chose qui est chaque fois remis en cause d'une année sur l'autre. Et on s'aperçoit, en lisant d'autres auteurs, ou même en lisant César, qu'en réalité, ce Conseil de la Gaule existait déjà depuis bien longtemps, très certainement depuis le 3e ou le 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est une institution confédérale, politique, qui était lourde d'avenir, mais qui n'a pas fonctionné autant qu'elle aurait pu.
S'il y a un conseil, on peut dire que la Gaule existe.
Oui, la Gaule existe comme un espace politique. Mais c'est vraiment un espace géographique et politique dont l'origine et la substance première était spirituelle. C'est un espace qui a été auparavant vraiment conçu, préparé par les druides.
Qu'en est-il de la société gauloise dans les années 60-70 avant notre ère, quand Vercingétorix naît, deux courants semblent s'opposer?
Oui, tout à fait. Donc ça reprend ce qu'on disait à propos des Arvernes et des Éduins, c'est-à-dire qu'on a d'une part, et à un moment de la guerre des Gaules, notamment dans l'année 53, des années 53-52, on le voit très bien, la Gaule est divisée en deux moitiés dans le sens longitudinal, donc nord-sud, et toute la moitié occidentale est plutôt hostile à César, et donc plutôt porté vers les valeurs traditionnelles des Gaulois, alors que toute la partie orientale, donc depuis les Trévires, c'est-à-dire l'actuel Luxembourg, les Médiomatrices, les Leuques en Lorraine, même les Séquanes, évidemment les Éduins, et puis on rejoint la province romaine, tous ces peuples-là sont tout à fait portés vers la civilisation romaine et veulent absolument être intégrés au monde romain. Et donc César va pouvoir s'appuyer sur cette division interne de la Gaule.
Vercingétorix est issu d'une très longue lignée aristocratique. Le nom même d'ailleurs de son père, Celtille, rappelle cette généalogie très prestigieuse.
Voilà, Celtilos, enfin en gaulois c'était Celtilos, donc nous on le traduit par Celtil en français, ça veut dire celui qui est d'origine celte. Et alors ça nécessite effectivement qu'on rappelle ce que c'est pour les Gaulois de l'époque de Vercingétorix, et même pour César, ce que sont les Celtes. Il faut se reporter à la première ligne, l'incipit de la guerre des Gaules de César, où il dit que la Gaule est divisée en trois parties. L'une qui est composée par les Belges au nord de la Seine, la deuxième qui comprend tous les Celtes, donc tout autour du Massif central jusqu'à la Méditerranée, et au sud de la Garonne, les Aquitains. Et donc les Celtes, mais c'est une description qu'il a reprise effectivement de Posidonios, qui remonte certainement au 2e, 3e siècle, c'est une époque où il y avait une confédération de Celtes, il y a une confédération de Belges également, et donc les Arvernes étaient les maîtres en quelque sorte de cette confédération, et c'est ce que les parents de Celtil ont voulu communiquer à leurs enfants et à leurs concitoyens quand ils ont appelé leur fils Celtilos, parce qu'effectivement c'est une ascendance prestigieuse.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Jean-Louis Bruno, le premier choc d'enfance de Vercingétorix sera la fin tragique de son père Celtille.
Voilà, donc il faut expliquer un petit peu comment les choses se sont passées. Donc Celtille est un personnage politique certainement très important, qui a réussi une sorte de coup de force, puisque ses ancêtres, donc notamment Bituit, avaient malheureusement tout loupé contre Rome en moins 120 et avaient perdu leur armée. Et donc on aurait pu croire que les Arvernes seraient tombés au fond du trou, en quelque sorte. Or, dès les années moins 90, moins 80, Celtil reprend la main, en quelque sorte, redonne tout leur blason aux Arvernes et il parvient même à devenir le patron de toute la Gaule. Justement, grâce à ce conseil de toute la Gaule qu'on vient d'évoquer. Donc c'est un exploit absolument extraordinaire, qui probablement a été mal compris par ses propres concitoyens arvernes, qui ont pensé, ou peut-être avaient-ils de bonnes raisons de penser, que leur chef arverne, Celtil, voulait devenir tyran de la cité des Arvernes, ce que les Gaulois ne supportaient pas. Donc les Gaulois ne supportaient absolument pas la tyrannie, de même la royauté pérenne ou dynastique, ça n'existe pas en Gaule. Chez eux, c'est vraiment, encore une fois, ce système de la clientèle, du patronat concurrentiel, donc qui doit être motivé par des compétences particulières, guerrières ou administratives, et rien ne doit justifier un pouvoir établi de façon pérenne. Et donc, Celtil a été condamné par un tribunal et condamné à mort. Et donc, à cette époque-là, Vercingétorix était certainement en âge de comprendre ce qui se passait, de voir peut-être les choses. Et probablement, ça a été un fort traumatisme, mais qu'il a aussi certainement bien éduqué.
Quelles sont les conséquences d'ailleurs pour le jeune Vercingétorix, qui doit être forcément le premier d'une lignée?
Voilà, donc son nom, le nom Vercingétorix est donné par les parents. Alors on ne sait pas trop à quel moment de la vie de l'enfant il est donné, mais il indique que c'était à cet enfant, donc à ce personnage, qu'on confiait en quelque sorte les rênes de la famille, de la dynastie. Donc c'était lui qui était promis à devenir le chef de famille. Donc probablement était-il aîné. Les conséquences, bah, évidemment, c'est le traumatisme que peut ressentir tout enfant dans pareil cas. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que chez les Gaulois, on le voit dans d'autres cas que cite César, il n'y a pas une mise au banc de la famille de celui qui a fauté. Ça ne change rien, même pour la famille. La famille garde ses biens, garde ses propriétés. Donc, c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, pour Vercingétorix, puisqu'on s'aperçoit que quelques années plus tard, il est très riche et il a une clientèle absolument énorme.
En tout cas, son oncle a sans doute contribué à la sentence de mort du père.
Alors, c'est ce que disaient les historiens du 19e siècle. Donc, c'est le fameux Gobanicio qui était probablement le frère de Celtil. Enfin, c'est l'oncle de Vercingétorix. On s'aperçoit qu'effectivement, quand César entre en Gaule, c'est l'un des sénateurs, c'est même le magistrat, le premier magistrat des Arvernes, qui entre en pleine collaboration avec César. Et donc, on a pensé qu'il y avait eu un complot de la part de Gobanicio pour faire disparaître son frère. Tout ça, c'est quand même, ce sont des élucubrations.
A-t-il reçu l'éducation des druides, ceux-mêmes qui détiennent la mémoire?
Oui, parce que de toute façon, en Gaule, il n'y avait pas d'autre éducation. Donc, il n'y avait pas de professeurs payés qui se transportaient d'une famille à une autre, comme ça existait à Rome ou en Grèce. Donc, les instructeurs de la jeunesse, c'était les druides. Et évidemment, c'était seulement la jeunesse noble qui pouvait se permettre d'avoir des maîtres aussi prestigieux que les druides. Donc, ça a été le cas de Vercingétorix, bien sûr. Et à cette époque-là, très souvent, les jeunes nobles comme Vercingétorix, comme d'autres, comme Divicac, par exemple, ou Dumnorix, dont il était question, ces gens-là sont allés dans les écoles de Marseille. Donc à Marseille, là, il y avait des écoles, puisqu'on est dans le monde grec, des écoles de philosophie, des écoles de rhétorique. Et on peut penser que Vercingétorix a pu bénéficier d'une telle éducation parce qu'on s'aperçoit, grâce à César, qu'il avait un don de la parole qui était quand même assez extraordinaire, qui était d'ailleurs partagé par beaucoup de Gaulois. Donc les Gaulois étaient des grands orateurs et même après la conquête romaine, ils vont devenir parmi les plus grands avocats du monde romain. Ils seront très très réputés.
Peut-on penser que Vercingétorix ait reçu la même éducation que César, celle due, bien sûr, liée à leur rang?
Ah oui, c'est exactement pareil. D'ailleurs, on est un peu fasciné quand on regarde ce double destin de la ressemblance de ces vies, puisque César, comme Vercingétorix, a perdu son père très vite, très tôt. Et donc, l'un et l'autre ont été en partie éduqués par leur mère. Bon, on sait que César a été éduqué à la fois dans les disciplines intellectuelles, mais dans les disciplines physiques. Et pour Vercingétorix, c'est exactement pareil.
Et le poids du divin aussi.
Ah oui, bien sûr, ça c'est certain. Chez les Gaulois comme chez les Romains, c'est très important. Bon, on sait que César est devenu pontife. Pour Vercingétorix, on ne le sait pas, mais on comprend très bien à la lecture des événements qu'il avait un sens du sacré tout à fait conscient.
Je rappelle pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture que nous évoquons Vercingétorix avec Jean-Louis Bruno, directeur de recherche au CNRS. Vercingétorix a-t-il été un otage de César? Dion Cassius semble le dire.
Oui, enfin, il le dit implicitement. C'est-à-dire que Dion Cassius nous dit quelque chose de très important. Il nous dit que Vercingétorix était dans l'amitié et dans l'hospitalité de César. Enfin, c'était réciproque, hein, pour les deux personnages. Et ce sont des formules pratiquement de droit latin qui sont très fortes, qui veut dire qu'il y a effectivement une relation très forte entre les deux hommes, d'amitié, mais aussi d'hospitalité, c'est-à-dire que ces personnages pouvaient quand César allait chez les Arvernes, il pouvait se sentir chez lui, et Vercingétorix, dans le camp de César, était chez lui. C'est comme ça que ça se passait. Donc, cette proximité ne peut s'expliquer que par la condition d'otage. Alors, on sait, puisque César en parle abondamment, que le conquérant de la Gaule a beaucoup usé des otages. Donc il faut savoir ce que c'est que les otages. Donc ce ne sont pas les otages tels qu'on les imagine depuis les deux grands conflits récents. Les otages dans l'Antiquité romaine sont très proches des otages du monde médiéval, c'est-à-dire que ce sont des princes, donc ce sont des fils de très grandes familles, et donc Vercingétorix c'était le meilleur représentant qui puisse exister, que le vainqueur gardait auprès de lui, mais un petit peu comme ses enfants, comme ses propres enfants, dans sa cour, avec tous les égards qu'on doit à sa propre famille, sans crainte que cet otage ne se sauve ou ne cherche à fuir, hein, de toute façon, puisque c'était vraiment une relation aussi très forte. C'était quelque chose qui était parfaitement consenti par tout le monde. Et la condition d'otage, du point de vue du vainqueur, avait une fonction très particulière. notamment César, se servait de ce temps, qui pouvait être assez long, pour former ses otages au monde romain, à la romanité, pour en faire les futurs édiles politiques des cités d'où il venait. Donc, Vercingétorix s'était promis à revenir dans sa cité Arverne pour prendre le pouvoir, mais évidemment dans le...
Romanisé,
dans le sens des intérêts romains.
Il faut rappeler que les ancêtres de Vercingétorix furent aussi eux-mêmes des otages de Rome, notamment Bituite, fils de Luerne, en 121 avant notre ère.
Oui, voilà, donc là on a un exemple d'un otage qui d'ailleurs a vécu une condition tout à fait particulière, puisqu'il a été otage à Albe, qui est une petite ville d'Italie, pas très loin de Rome, où il est resté dans une sorte de résidence dorée et il n'a jamais cherché à revenir en Gaule.
On peut penser que Vercingétorix devient une sorte d'auxiliaire de l'armée romaine et bien sûr manie, dirige une cavalerie à Verne.
Ah oui, ça c'est absolument évident parce que Les otages de grande notoriété, comme l'était Vercingétorix, comme l'était également Dumnorix, le frère de Divicac, l'Éduain, ainsi que d'autres, ces grands princes, avaient pour mission de commander leurs congénères qui devaient assister les Romains. C'est-à-dire que la conquête romaine et la mise sous le joug de toute la Gaule par César n'a pas pu se faire, encore une fois, avec les quelques légions qu'avait César. César a tout de suite demandé l'assistance d'auxiliaires gaulois, donc de troupes gauloises de chacune des cités, et donc les grands princes otages avaient pour mission de commander leur propre contingent d'auxiliaires.
Rendu à sa condition, Vercingétorix prend bien sûr le pouvoir et devient roi des Arvernes. En témoigne une série de monnaies d'or et de bronze. L'affrontement n'est donc pas du tout engagé entre les deux hommes.
Non, Vercingétorix est resté probablement 3 ans, peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus, c'est difficile à dire, dans la proximité de César, dans son camp. Et ensuite, il a été renvoyé chez lui par César pour qu'il commence à s'occuper des affaires politiques de sa propre cité. Et donc, quand il rentre certainement vers 55 ou 54, il est effectivement toujours dans l'amitié de César.
De fait, à partir de 54, Vercingétorix va suivre la même méthode d'ascension vers le pouvoir que César.
Oui, ce sont les mêmes méthodes. D'abord celles qu'il a apprises auprès de César, de toute façon. Donc la recherche d'une clientèle très forte. Donc dès qu'il rentre dans sa cité, chez les Arvernes, il va reconstituer l'ancienne clientèle de son père, qui était immense. Et donc il va y travailler très sérieusement.
On a d'ailleurs une très belle description de César là-dessus.
Oui, tout à fait. Oui, il l'avoue lui-même. Oui.
N'y a-t-il pas une complicité entre les deux hommes?
Oui, très certainement.
La guerre entre les deux, d'ailleurs, étant inévitable.
Oui, la complicité, c'est celle déjà du camp. C'est-à-dire que dans le camp de César, Vercingétorix était tout près de la tente de César. Il était dans ce qu'on appelle le praetorium, c'est-à-dire qu'il était dans les quartiers de César. Et il était amené, ainsi que d'autres princes de valeur, à converser très, très régulièrement avec César, parce que César aimait beaucoup d'ailleurs les indigènes et surtout les jeunes indigènes brillants. Il se méfiait plus de toute la cour de petits jeunes, les chevaliers de Rome, etc., qui l'accompagnaient et qui venaient surtout chercher des finances.
En 53, nous voici devant la rupture, vers l'insurrection nationale, pourrait-on dire. Au printemps 52, le voici généralissime incontesté.
Ah, il n'est pas encore incontesté. Non, il va s'imposer, c'est-à-dire que là, justement, dans son récit, César n'est absolument pas clair. Il nous dit qu'il y a une insurrection qui est fomentée par les Carnutes, et avec le fameux passage dans le locus consecratus, c'est-à-dire le lieu sacré des Carnutes, qui est le lieu sacré aussi de toute la Gaule, où là, l'insurrection est décidée, et puis on s'aperçoit très vite que c'est Vercingétorix qui prend la tête, et donc on comprend pas tellement comment les choses se sont passées. Donc il est probable que Vercingétorix a fait preuve d'esprit politique très averti et qu'il a su prendre la direction au bon moment d'un mouvement qui n'était peut-être pas né chez lui et qui était peut-être né justement plutôt plus au nord, chez les Carnutes et chez les Belges.
Laissons aux lecteurs le massacre d'Avaricum, la victoire de Gergovie, le jeu trouble des Éduains. Le face-à-face a lieu en août 52 et Vercingétorix perd désormais l'initiative. Tout sera écrit sur ce piètre stratège. Pourtant, Vercingétorix a été formé à l'art du siège, à ce que l'on appelle la polyorcétique romaine.
Oui, ben évidemment, de toute façon, pendant 3 ans, il n'a pas arrêté de voir la construction, le démontage des camps romains, des camps d'étape, etc. Petra, il a vu César et ses troupes procéder à des sièges. Donc, ce sont des techniques qu'il connaissait parfaitement, de même que d'autres chefs gaulois qui ensuite les ont utilisés pour leur propre compte. Donc il était parfaitement au courant de cet art très particulier, également de la tactique militaire. Et donc on ne comprend pas que certains historiens aient été amenés à considérer que Vercingétorix était un mauvais stratège. Ça, on ne comprend pas du tout. Quand on regarde dans le détail, on se rend compte que c'est tout le contraire.
Reste Alésia et la reddition et un discours où Vercingétorix évoque la liberté commune.
Oui, alors ça c'est important, mais c'est pas propre à Vercingétorix en tant que personnage, puisque c'est déjà le discours qu'avait prononcé l'un de ses grands sages Arverne, Catugnatos, qui a fait un discours à Alésia que César reproduit, qu'un discours très célèbre, puisqu'il était question peut-être de manger les mourants et les morts lors de la famine à Alésia. Et au cours de ce discours, Catugnatos montre l'état déplorable dans lequel se trouvent les Gaulois dans la province romaine en disant qu'ils sont en esclavage. Et donc c'est bien cette conception de l'esclavage des Gaulois de la province et de la liberté commune qu'il faut défendre.
Cette reddition est bien sûr très ritualisée. On pourra y voir le suicide des rois Galates, mais surtout la fin d'un monde, la fin d'un cycle selon la pensée druidique.
Oui, absolument, parce que on comprend pas d'ailleurs, Dion Cassius lui-même l'écrit, il commence son récit de la reddition en disant « Vercingétorix aurait pu fuir ». Et effectivement, il aurait pu fuir puisqu'on a l'exemple d'un autre chef, puisque Vercingétorix avait plusieurs généraux autour de lui, et notamment l'un très connu qui s'appelle Commios, qui était un atrébate, et lui s'est enfui. Et ensuite, il a pu continuer la guerre contre César. Donc Vercingétorix aurait très bien pu faire la même chose à la fin de la bataille d'Alésia, où la confusion était extrême. Il aurait très bien pu fuir, mais il ne l'a pas fait parce que d'abord il ne voulait pas abandonner ses troupes. Hein. Il s'est comporté comme un roi ou un général des temps anciens qui n'abandonne pas ses troupes. Et son comportement est effectivement proche du suicide des rois Galates.
César l'écrit, il lui fut livré. Il lui fut livré, probablement enchaîné.
Absolument, ça c'est sûr. À partir du moment où les troupes romaines, le lendemain de la défaite de Vercingétorix, ont commencé à reconstituer un petit peu leur état, à remettre en place les fortifications, etc., plus personne ne pouvait sortir d'Alésia, si ce n'est accompagné de légionnaires et si ce n'est sous les chaînes.
Jean-Louis Bruno, disons-le, pour les Gaulois conquis, Vercingétorix fait déjà partie de l'histoire, l'histoire que l'on veut à tout prix oublier.
Ah oui, ça c'est absolument évident, c'est-à-dire que les tenants de la romanisation, eux, n'ont pas du tout de mal à l'oublier, et ceux qui étaient proches de Vercingétorix, qui ont participé à son aventure, probablement ont-ils été très, très honteux de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont laissé faire. Et donc, effectivement, il n'est plus du tout question de Vercingétorix après Alésia, dans la mémoire des Gaulois et même des Romains qui l'ont pratiquement oublié. Et il faudra effectivement le triomphe à Rome pour que César leur remontre Vercingétorix.
En 46, voilà. Vercingétorix sombre alors corps et âme dans l'oubli de 19 siècles avant de ressurgir comme chef incompétent, traître, résistant ou collaborateur.
Oui, alors ça ce sont effectivement quelques-unes des interprétations qu'on a données au personnage qui sont toutes assez curieuses et qui n'ont pas de fondement. On ne voit pas en quoi il a pu être traître, en quoi il a pu être mauvais stratège par exemple.
Vercingétorix n'est-il pas tout simplement arrivé trop tard dans l'histoire des Gaules ?
Oui, ça on pourrait le croire, parce que je crois que s'il avait mené son aventure au temps de son père, c'est-à-dire 20 ou 30 ans plus tôt, cette aventure était encore possible. Mais dans les années 50, ça ne l'était plus parce que l'influence romaine était trop forte. La puissance du commerce romain était absolument invraisemblable. On le voit très bien avec les fouilles qui sont faites actuellement, notamment sur le Mont Beuvray ou sur d'autres sites. Quand on voit les millions d'amphores qui tapissent les sites gaulois, il était difficile de faire quelque chose à cette époque.
Jean-Louis Bruno, merci beaucoup. Donc, à découvrir Vercingétorix, publié aux éditions Gallimard.
Merci.
Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Pierrick Charles et avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochat. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, départ pour le Soudan et l'épigraphie méroïtique.